Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi de Mbujimaï où il séjourne, le ministre de l'EPST a donné ce lundi matin le coup d'envoi de la rentrée scolaire en RDC. Tony Mwaba a indiqué que cette année scolaire est placée sous les signes de la rigueur pour la recherche de l'excellence. 17 associations membres de la société civile de Goma au Nord Kivu dénoncent ce qu'ils qualifient de laxisme des autorités autour de la pénurie d'eau potable dans la ville. Ils affirment que dans deux communes, il n'y a pas d'eau potable depuis plus de 5 ans. L'autre invité, Femedar Kavota du CEPADO, il parle de 7 ans qui se sont déjà écoulés depuis que des civils sont massacrés au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a donné ce lundi au complexe scolaire Bena Kabongo de la ville de Mbujimaï le coup d'envoi de la rentrée scolaire à RDC. C'était en présence de quelques sénateurs ressortissants de cette ville. Tony Mwaba a indiqué que l'année scolaire 2021-2022 est placée sous les signes de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de ces secteurs. En Mbujimaï, Esther Dalafina.
Déjà autour de 7 heures du matin de ce lundi, les élèves du complexe Bena Kabongo 1 et 2 étaient dans la cour de l'école pour la rentrée scolaire. Dans son discours, le ministre national a de prime abord remercié les parents qui ont accepté d'envoyer ce jour leurs enfants à l'école. Tony Mwaba a reconnu certains défis liés à la gratuité de l'enseignement au Kasaï oriental.
Le gouvernement est engagé ensemble avec certains partenaires techniques et financiers à pouvoir construire de nouvelles salles de classe, de nouvelles écoles équipées en matériel didactique, en bancs et autres fournitures scolaires.
Suite à la menace de grève lancée par le banc syndical, le ministre fait quelques recommandations aux enseignants.
À titre de gage de bonne foi, le gouvernement a disponibilisé la somme de 40 000 francs au profit de chaque enseignant. Je vous recommande donc de vous concentrer au travail. Je vous appelle donc à la paix. Ne cédez pas à la manipulation, à tous les messages de la haine.
Après ce discours, quelques enseignants ont réagi en ces termes.
Nous apprécions un peu ça. C'est pourquoi vous nous voyez déjà dans la salle de classe.
Nous remercions d'avoir ajouté 40 000. Nous avons les élèves peuplés et que les gouvernements songent à nous.
Pour rendre cette rentrée scolaire effective, l'UNICEF Mbujimaï a remis symboliquement 250 cartons composés de fournitures scolaires et objets classiques à distribuer à 10 000 élèves vulnérables. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
À Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, la rentrée scolaire est également effective ce lundi dans le secteur privé agréé et dans certaines écoles conventionnées. Des précisions avec vous, Emmanuel Elemejouakabeli.
Pour le secteur privé agréé de la ville de Bukavu, gestionnaires d'écoles, élèves et enseignants sont en place. Les enseignements se donnent. Au secteur conventionné, la rentrée scolaire est timide ce lundi. Dans certaines écoles conventionnées catholiques, dont précisément le collège Alpha Diri, les parents qui se sont présentés nombreux avec les enfants étaient vite obligés de rebrousser chemin, faute d'enseignants. Ces derniers boycottent le chemin des classes selon les injonctions de leurs délégués syndicaux. Seuls les directeurs d'écoles primaires sont présents. La même chose au secteur conventionné protestant de Bukavu, à l'Institut Toumaïni en commune du Banda, les élèves sont rentrés faute d'enseignants. Par contre, dans toutes les écoles du secteur conventionné adventiste, les enseignements ont bel et bien débuté ce lundi. Tous les enseignants sont en place. À l'Athénée du Banda, un complexe totalement officiel, les élèves se sont présentés. Seuls deux enseignants étaient au rendez-vous ce lundi matin. Les responsables éducatifs du Sud Kivu estiment que c'est presque chaque année que le premier jour de la rentrée scolaire a toujours été timide. Emmanuel Elamejiwakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu, par contre, hormis les écoles privées agréées, il n'y a pas eu de rentrée scolaire aujourd'hui dans toutes les écoles publiques de la ville de Goma. Les enseignants ont répondu au mot d'ordre de grève lancé par leur syndicat. Même son des cloches dans les territoires de Massissi, de Nyiragongo, de Rutshuru et de Walikale en proie à l'insécurité. Faisons le point de la situation avec vous, Cambriel Wamenya.
À l'Institut de Goma, l'une des plus grandes écoles publiques non conventionnées, c'est la grève sèche. La haie de l'école était visiblement fantôme ce matin. Aucun chevalier de la craie ne s'est pointé à l'école. Un peu plus loin de là, au collège Mwanga et à l'Institut Biaï, deux écoles pilotes conventionnées catholiques, les décors étaient les mêmes. Tout était calme dans la cour de l'école. Dans les territoires de Nyiragongo où une dizaine d'infrastructures ont été englouties ou calcinées par la lave, la rentrée scolaire n'a pas du tout eu lieu dans les écoles restées viables après l'éruption du volcan. Les enseignants ont respecté les mots d'ordre de leurs syndicats respectifs, dont les IECO et la FOSINATE. Dans les territoires de Rutshuru-Voisin, la nouvelle société civile affirme que la rentrée des classes n'a pas eu lieu sur l'ensemble du territoire. Enfin, dans les territoires de Masisi et Walikale, c'était le même spectacle dans toutes les écoles publiques. Aucun enseignant n'a répondu à l'appel selon nos sources. Notons qu'à ces décors vient s'ajouter la fermeture de plusieurs écoles dans les groupements d'Oufamando 1er et Ikobo suite à l'insécurité. La rentrée scolaire reste donc hypothétique dans ces deux entités. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu où les cours n'ont pas repris ce lundi matin dans les écoles publiques de la ville de Beni. Dans plusieurs établissements scolaires de la zone visitée par les reporters de Radio Okapi, les enseignants n'étaient pas présents. Les deux principaux syndicats des enseignants ont annoncé le week-end que leurs membres n'iraient pas enseigner aujourd'hui tant qu'ils n'auront pas obtenu l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour en parler, retrouvons à Beni Guylaine Kassassia.
À l'Institut Bungulu, les élèves étaient bien visibles dans la cour de l'école, mais aucun enseignant dans la salle de classe. Seuls les chefs d'établissement étaient présents ce matin dans son bureau pour inscrire les nouveaux élèves. Juste à côté, à l'Institut de Beni, aucun élève ni enseignant n'était présent. Seuls quelques parents étaient visibles dans la cour de l'école pour inscrire leurs enfants du côté de l'EPA Beni. C'était plutôt la bousculade. C'est ce lundi que les inscriptions des nouveaux élèves ont commencé. Les responsables de l'école affirmaient qu'ils attendaient l'ordre de leur supérieur pour lancer les inscriptions. Les cours ne devraient commencer que le lundi prochain, a fait savoir un enseignant. Dans les écoles privées de Beni, les cours ont pourtant bien commencé. À l'Institut de l'Avenir de Beni, au complexe scolaire Marie Coranson et au lycée Moindou où nous nous sommes rendus, les cours se déroulent normalement depuis le matin. Le chef de la sous-division de l'EPST Beni, Olivier Matoro-Lengue, que nous avons joint au téléphone, n'a pas souhaité commenter la situation qui prévaut dans les écoles publiques. Il y a deux semaines, les syndicats des enseignants du Congo et les syndicats nationaux des écoles conventionnées catholiques avaient fait savoir que leurs membres aient conditionné la reprise des cours par l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Et puis, en Ituri, la rentrée scolaire a été effective ce lundi dans toutes les écoles de la ville de Bunia où vivent plus de 20 000 déplacés de guerre. Cependant, plus d'une centaine d'autres établissements scolaires n'ont pas ouvert aujourd'hui, notamment à Komanda et sur l'axe routier qui va de Loya Mambelenga en territoire de Rumu et dans plusieurs localités du territoire de Djougou à cause de l'insécurité. D'autres écoles ont été délocalisées dans des milieux plus sécurisés. C'est ce qu'affirme des sources de la société civile. À Bunia, Isaac Remoyope.
Les rues de Bunia ont été inondées ce lundi matin d'enfants vêtus de bleu et blanc qui se rendaient à l'école. Mais on a noté plusieurs cas d'absence au cours de cette première journée. La cause, certains parents se plaignent du contexte difficile dû à l'insécurité qui ne leur permet pas d'acheter des uniformes et des fournitures scolaires pour leurs enfants. Par contre, dans d'autres entités, les écoles sont carrément fermées. C'est notamment le cas à Komanda où il y avait une dizaine d'établissements scolaires. Ce centre commercial a été la cible d'attaque le vendredi soir des hommes armés, ce qui a entraîné les déplacements de la population. Même décor sur l'axe Komanda Mambelenga où plus de 35 écoles ne sont pas opérationnelles à cause de l'activisme des rebelles des ADF, affirme le président de la cité civile d'Irumu. Le même constat est fait sur l'axe Bogacha Bibourassi où plus de 20 écoles ne fonctionnent toujours pas à cause des atrocités des ADF. Selon la cité civile de Bahema Boga, 4 écoles de cette zone ont été délocalisées à Boga Centre où les activités scolaires se déroulent normalement. En territoire de Djougou, une trentaine d'écoles ne sont pas également opérationnelles en chefferie de Banyari Kilo, Walendu Pitsi, Mambisa et une partie des Bahema Badjere et Bahema Nord. C'est là à cause des violences du groupe armé Codeco. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il y a eu également rentrée scolaire au collège Notre-Dame d'Afrique de Lemba, une école conventionnée catholique. Près de 500 élèves de 7e, 8e étaient accompagnés de leurs parents. Le récit de Jeff Ngoy.
Le surveillant fait résonner la clochette appelant les élèves à se mettre en ligne. Plusieurs salles de classe accueillent les élèves dans le respect des gestes barrières. chaque enfant porte obligatoirement son masque. On compte au moins une cinquantaine d'élèves par classe, à raison de deux par banc. Dans une causerie morale, le préfet de l'école explique l'historique du collège.
Notre école est née en 1999 et c'était au cours d'un conseil paroissial de la paroisse Notre-Dame d'Afrique.
Il en appelle au respect du règlement d'ordre intérieur et présente le corps enseignant.
Nous allons vous remettre ce règlement d'ordre intérieur, mais il y a quelques articles que j'aimerais que vos parents ici présents puissent déjà le savoir, c'est que l'élève du collège a un modèle d'uniforme qu'il porte. Pour la fille, le modèle se trouve dans le billet des vacances. Madame la conseillère pédagogique, elle est là. Conseillère pédagogique des filles, l'an 2000.
Ainsi, le cours commence au Collège Notre-Dame d'Afrique en présence de tous les enseignants.
Rentrée scolaire effective également ce lundi à Saint-Joseph-de-Cunéo dans la commune de Selembao, ici à Kinshasa. C'est une école privée catholique qui a connu ce lundi matin un engouement sans précédent. En plus de ses anciens élèves, cet établissement a enregistré une augmentation d'élèves venus d'autres écoles conventionnées. Les parents venus accompagner leurs enfants à l'école affirment que cette école, bien que payante, assure une formation de qualité et maintient l'ordre et la discipline. Un reportage de Michel Kifindangoy.
Dans son mot d'ouverture, la sœur Hélène Mbungu, préfet de l'école, annonce les couleurs de la rigueur renforcée dans la discipline et la formation durant cette nouvelle année. Dès ce premier jour, l'école commence à 7h30 et se termine à 12h30. Dès 7h du matin, tous les parkings automobiles de Saint-Joseph-de-Cunéo ont été bondés de véhicules. Plusieurs centaines d'élèves accompagnés de leurs parents ont envahi la cour de l'école. À en croire la sœur préfet, Saint-Joseph-de-Cunéo a connu une augmentation d'environ 25% d'élèves pour les classes de recrutement, tant au primaire qu'au secondaire. À titre d'exemple, la deuxième année primaire est passée de 2 classes l'année dernière à 3 classes de 39 élèves cette année. Cette augmentation est justifiée selon les parents par le souci d'offrir à leurs enfants une bonne formation scolaire. En effet, cette école des sœurs de Saint-Joseph-de-Cunéo est une jeune école privée catholique d'une dizaine d'années. Ici, il n'y a pas de gratuité d'enseignement. Les enseignants sont pris en charge par les parents d'élèves.
S'agissant toujours de la ville de Kinshasa, signalons qu'au collège Boboto, dans la commune de la Gombe, où notre reporter est passé cet avant-midi, les élèves ont également répondu présents pour ce premier jour de la rentrée scolaire. Cependant, plusieurs professeurs de cet établissement catholique étaient aussitôt arrivés, n'ont pas enseigné. Autre nouvelle, au Nord Kivu, 17 associations de jeunes, mouvements citoyens et quelques associations de la société civile de la ville de Goma dénonce ce qu'il qualifie du laxisme des autorités autour de la pénurie d'eau potable dans cette ville. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, ces organisations parlent de la mauvaise gestion de cette question par les responsables de la régie des eaux. Ils affirment que dans deux communes de la ville de Goma, il y a des quartiers qui ne sont pas desservis en eau potable depuis plus de 5 ans. L'un d'eux, Jules Ngeleza, explique au micro de Gabriel Omenya.
La déclaration est consécutive à la problématique de la pénurie d'eau potable dans les deux communes de la ville de Goma, à savoir la commune de Goma et la commune de Karisimbi. Pourquoi ? Parce que nous avons certains de nos quartiers qui viennent de passer autant de mois sans être desservis en eau potable.
Combien de mois ?
On est en train d'aller à peu près à 5 ans, parce que je prends comme l'exemple du quartier Himbi, les quartiers Katine, les quartiers Ekasika, Katoi, Majengo, Mabanga et partout ailleurs, ce sont les quartiers qui jusque-là ne sont même pas desservis en eau potable, pendant qu'il y a des stations de pompage et de captage qui sont au niveau de la ville. Il y a des réservoirs, je peux citer celui du Mogoma, les réservoirs de Bouchara au niveau de Nyiragongo. Mais vous imaginez par exemple dans l'heure de santé de Mont Carmel, on est en train d'enregistrer des cas de choléra. Je disais
contacté à ces sujets, le directeur de la régie des eaux rejette en bloc ces allégations. Monsieur David Angoa parle plutôt d'une instrumentalisation de ce jeune. Revenons ici à Kinshasa pour parler d'autre chose. La culture du quinquina comme plus-value du secteur agricole nécessite l'appui et la protection de l'État congolais. Le directeur général de la Pharmakina a présenté samedi après-midi au Premier ministre les potentialités que le secteur agricole congolais peut tirer de cette culture dont l'arbre sert à fabriquer la quinine contre la malaria depuis des décennies. Il affirme que la RDC détient 80% du potentiel mondial de la culture du quinquina. C'est ce que nous explique Billy Valutumba.
D'après Étienne Emi, cette position valorise davantage le secteur agronomique par rapport à d'autres secteurs, en l'occurrence le secteur minier. Il estime donc nécessaire que l'industrie locale bénéficie d'une certaine protection pour parvenir à transformer localement le quinquina en vue de lui donner une valeur ajoutée qui, pour le moment, bénéficie à l'étranger.
Nous, en tant que transformateurs de ce produit dans le pays, comme industrie locale, nous voudrions bien sûr que davantage nous puissions générer des capacités supplémentaires et puis d'avoir certaines protections à ce sujet pour générer plus de valeur ajoutée qui, pour l'instant, est plus générée à l'étranger que dans le pays.
Ce qui génère dans le chef de la direction des plus grandes ambitions.
Le réel problème, c'est de disposer de davantage de quotas de matières premières qui sont actuellement exportées à l'étranger et qui vont sur le marché de l'exportation à des coûts moins importants, à des prix dumping, etc. Et puis nous perdons toute cette partie alors que nous pourrions l'exporter. Le prix d'un kilo de quinine sous forme de matière première est naturellement beaucoup moins important que sous forme de produits finis ou semi-finis. On a une certaine capacité installée. On peut davantage installer plus de capacités, mais il nous faut des appuis.
Étienne Emi, patron de Pharmakina, s'est du reste réjoui du retour du Premier ministre Samalou Kondé par rapport aux assurances qu'il lui a présentées.
Actualité internationale.
En Éthiopie, Abiy Ahmed, dont le parti de la prospérité a remporté une victoire écrasante au mois de juin dernier, a été investi ce lundi matin par le président de la Cour suprême, Maïsa Achanif. Les talibans ont affirmé ce lundi matin avoir neutralisé à Kaboul une cellule du groupe État islamique, quelques heures seulement après un attentat à la bombe contre une mosquée de la capitale afghane dans lequel au moins 5 personnes ont été tuées.
L'invité.
4 octobre 2014, 4 octobre 2021, 7 ans après ce qu'ils considèrent comme le début des massacres des civils dans la région de Beni, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, exprime sa consternation. Dans une déclaration faite ce lundi, cette organisation se désole du drame humain que cause l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. Maître Omar Kavota, directeur du CEPADO, s'entretient avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rendu publique une déclaration à l'occasion du 7e anniversaire de ce que vous appelez la série des massacres des civils perpétrés par les ADF MTM dans la région de Beni. Pouvons-nous en savoir plus?
Effectivement, à l'occasion de ce 7e triste anniversaire, notre organisation déplore que, à la suite de massacres perpétrés par les terroristes ADF MTM, au moins 3750 civils ont été sauvagement tués et près de 1800 autres kidnappés dans différents champs, villages et agglomérations. Au moins 3430 maisons ont été incendiées, 125 véhicules incendiés sur les axes routiers, 130 écoles et structures médicales pillées ou détruites par ces terroristes. Et c'est une situation qui affecte pratiquement la paix et la sécurité. Nous sommes tellement préoccupés, considérant que ces massacres sont partis de deux villages, à savoir Moukoko et Kisiki, et ces massacres ont embrasé tout le territoire avant de s'étendre sur des territoires voisins, notamment des territoires de Mambasa, d'Irumu, et donc après avoir embrasé l'ensemble du territoire de Beni.
Vous continuez à appeler la population à soutenir les FRDC, mais aussi l'État congolais à travers l'État de siège. C'est quel type de soutien parlez-vous concrètement?
Nous voudrions appeler la population, comme jamais auparavant, à collaborer avec les animateurs de l'État de siège. Parce que cet État de siège qui a été institué par l'autorité pour être une réponse contre ce mal que nous avons enduré pendant 7 ans. Nous voudrions que cette population dénonce les complicités avec l'ennemi et se désolidarise de cet ennemi, à savoir les ADFMTM. Nous voudrions également que les uns et les autres appuient les FRDC, appuient la MONUSCO dans les renseignements et communiquent positivement sur les actions ou les efforts consentis par l'autorité, de manière à ce que nous soyons ensemble contre l'ennemi commun qui est l'ADFMTM, un ennemi dont le terrorisme est avéré.
L'un des moyens mis en place par le gouvernement congolais pour juguler cette insécurité, c'est notamment l'état de siège. Quelle est la position de votre organisation, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, face à cet état de siège?
Il faut rappeler que lorsque les États-Unis d'Amérique, à travers le département d'État, ont qualifié l'ADF-MTM de mouvement terroriste le 10 mars dernier au niveau du CEPADO, au lendemain de cette qualification par les États-Unis de l'ADF-MTM comme mouvement terroriste, nous avions suggéré à l'autorité congolaise de pouvoir décréter un état de siège pour s'approprier les conclusions de ce que les États-Unis ont donné comme qualificatif s'agissant des ADF. Et lorsque le chef de l'État a signé au mois de mai l'ordonnance instituant l'état de siège, le CEPADO a estimé que c'était une réponse à sa demande. Et c'est pourquoi notre organisation soutient totalement l'état de siège. Et nous voudrions que tout le monde soutienne cette initiative sans hypocrisie.
Quel appel lancez-vous aux hommes politiques pour essayer de mettre fin à cette insécurité dans la région de Béni?
Il est temps que les acteurs politiques soutiennent de manière engagée cet état de siège. 7 ans de tumulte, c'est déjà trop. On ne peut plus encore tergiverser sur l'identité de l'ennemi. On ne veut plus soutenir d'une manière l'ennemi par notamment des discours d'intox, de diabolisation gratuite de FRDC ou de désinformation. Nous voudrions que nos acteurs politiques sachent ce qu'ils veulent, sachent ce que la population souhaite. Et aujourd'hui, la population souhaite la paix et la sécurité. Et si cette paix et cette sécurité passent par cette initiative courageuse, quel état de siège? Nous voudrions que nos politiciens accompagnent l'état de siège, que nos politiciens ne s'érigent pas en obstacle de l'état de siège, qu'ils ne soient pas ceux qui vilipendent jour et nuit les animateurs de l'état de siège sans apporter la moindre alternative qui soit la plus appropriée. Nous disons que les acteurs politiques, les élus provinciaux, les élus nationaux et ceux qui sont dans les institutions devaient franchement soutenir les animateurs de l'état de siège, accompagner les animateurs de l'état de siège en évaluant certainement ce qui est en train d'être réalisé et en apportant de leur contribution par une critique constructive pour que nous puissions ensemble réussir cet état de siège.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci à Radio Okapi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur exécutif de CEPADO, Omar Kavota, qui s'est dit consterné par les massacres des civils par des miliciens depuis 7 ans dans la région de Béni, a été interviewé par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Aluzitu qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipelamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.